J'ai fait des préambules assez importants. J'ai d'abord essayé de prendre des faits qui étaient traités. Par exemple, une prophétie qui disait qu'Israël serait créé en un jour, etc. J'ai pris des faits pour montrer que la Bible avait annoncé des choses et qu'elles se sont réalisées. C'est pour montrer l'autorité de la Bible, de la prophétie. J'ai fait ça à deux reprises. Ça, c'est enregistré et ça peut aider les personnes à se dire, ce livre n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre qui dépend de Dieu, qui dit des choses de la part de Dieu. Et Dieu, quand il dit quelque chose, le réalise. Voilà. C'était l'idée première. Pourquoi? Parce que si on parle de l'homme et de Jésus, du salut, il faut quand même accorder un certain crédit à Dieu qui parle dans la Bible à propos de l'homme et de Jésus. C'est pour ça que je l'ai fait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est de parler de l'homme, l'homme qui a un corps et une âme, et cette âme a été sollicitée par Satan pour se séparer de Dieu. Elle a recherché des pouvoirs par elle-même, des pouvoirs de sagesse, des pouvoirs de connaissance. Et elle s'est égarée, s'est séparée de Dieu, et elle a échoué dans cette tentative d'autonomie par rapport à Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, est venu proposer la réconciliation, proposer de rétablir la relation. C'était l'idée du salut offert par Dieu gracieusement à l'homme pécheur, à l'homme égaré, perdu. Bon, c'est évidemment un sujet vaste. Bon, je l'ai traité en une fois. Maintenant, je voudrais parler de comment Jésus est venu parler, proposer quelque chose. Ben, Jésus est venu pour proposer de faire un nouveau peuple, un peuple qui appartient à Dieu. Ça, c'est essentiel. Le mot Église est venu après. C'est d'abord le mot de peuple, de troupeau, de brebis, etc. Donc, quand Dieu veut faire une assemblée sur terre, de personnes qui soient sauvées, qui soient à part, il va avoir un langage assez exclusif. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est insupportable pour beaucoup de gens en Europe. Mais c'est évidemment exclusif. Et ça dérange beaucoup de gens parce que on dit aussi, Mahomet, l'islam est exclusif, les témoins de Jéhovah sont exclusifs, tout le monde est exclusif. Donc nous, on ne veut plus entendre ce type de langage. C'est ça qui propose la guerre, qui propose la division, les querelles, qui amène beaucoup de problèmes. Ça, ce sont des réactions européennes. Autre part, dans d'autres continents, on n'a pas cette attitude. Donc, quel est le langage exclusif de Jésus? On va le voir dans Jean chapitre 10, verset 2. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Bon voilà, c'est exclusif. C'est clair, un peu plus loin, Jésus dit ceci, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie, qu'elles l'aient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc il y a l'idée, si c'est exclusif, il y a l'idée quand même d'un don entier de la part de Jésus pour les hommes. Pour les hommes. Le don de sa vie. C'est aussi exclusif, c'est une attitude radicale qui n'est pas courante chez les hommes. Regardons dans toujours le même chapitre, au chapitre 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, hein, vous lui dites, à lui, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est aussi exclusif. Je suis le Fils de Dieu. Hein? Tout le monde dira, en croyant, en supposant que tout le monde croit en Dieu, et qu'il y a un seul Dieu, ils vont dire, mais tout le monde est enfant de Dieu, tout le monde est fils de Dieu. Hein? C'est l'attitude universaliste. Que tout le monde a le même Père, tout le monde a le même Dieu, et il n'y a pas de différence. Quelle que soit la religion qu'on a, quelle que soit l'attitude qu'on a, ça s'appelle de l'universalisme. Et on voit ici que il a été l'objet de la haine des religieux à cause de cela, parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Bon, qu'est-ce que Jésus a voulu dire en disant « Je suis le Fils de Dieu » ? Eh bien, si nous regardons au chapitre 11, verset 25 et 20, à 27, voilà ce que Jésus dit pour préciser. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc d'abord, il devait venir dans le monde, c'est donc un Fils de Dieu qui n'est pas ordinaire. Il devait venir dans le monde pour le monde. Et puis, une autre chose, c'est qu'il promet la résurrection. Or, tout le monde sait bien qu'il meurt, qu'il décède, et nous avons vu dans l'exposé précédent que la rupture avec Dieu a engendré la mort, a amené la mort, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus propose de libérer l'homme des conséquences du péché, de redonner la vie, donc la résurrection, mais en plus, je suis la résurrection et la vie, c'est-à-dire la vie avec Dieu, la vie de relation avec le Père des cieux. Donc Jésus a une autorité pour rétablir la relation avec Dieu. Donc ce n'est pas un homme ordinaire. Un homme ordinaire n'arrive pas à rétablir la relation avec Dieu. Les gourous le disent. Il y a énormément de gens qui ont prétendu... ils avaient vu Dieu, qu'ils le connaissaient, qu'ils ont des visions, et ils ont dit, ben, je peux vous remettre en contact avec Dieu. Mais, est-ce qu'ils ont libéré les hommes de leur pouvoir du péché ? Dans l'exposé que j'ai fait précédemment, j'ai pris une parole de Jésus qui montrait que le cœur de l'homme était mauvais, et qu'il fallait transformer le cœur de l'homme. Que dans le cœur de l'homme, tout était souillé. Il y avait animosité, querelle, etc. Jésus est venu pour changer le cœur de l'homme. Est-ce qu'un gourou, est-ce qu'un prétendu sauveur change le cœur de l'homme ? Apparemment, oui. Mais on voit que souvent, après se développe l'orgueil, l'amour de l'argent, l'amour du sexe. Ce sont des sectes. Chez Jésus, on voit qu'il y a un total désintérêt pour l'argent, pour le pouvoir, qui est le reflet de l'orgueil, et pour la souillure, qui est le reflet de sexe utilisé abusivement. Donc, chez Jésus, on a un désintérêt pour l'orgueil, l'argent et le sexe. Et on a une pureté de motivation, on a même un don de soi pour le salut du monde. Ça, c'est unique. Il y a peu de messages ont été donnés dans ce sens-là. Je dirais même qu'il n'y en a pas eu d'autres. Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 27, on voit bien que Jésus a le pouvoir de restaurer la vie qui s'est dégradée suite au péché. La résurrection, c'est ça. Et si on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, on voit que le corps est glorieux, il n'est plus méprisable, il n'est plus sujet à la maladie, etc. Donc c'est un pouvoir extrême que Jésus a. Ce n'est pas un petit pouvoir. Pour recommencer une vie telle qu'elle a eu, ce n'est pas une réincarnation, une vie telle qu'elle a eu lieu avant, dans toutes ses limites, dans toute sa précarité, C'est une vie avec une totale restauration. Donc Jésus est assez exclusif, assez unique. On va regarder dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils, donc à Jésus, qui est appelé Fils de Dieu et qui est Fils de Dieu, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc il ne verra point la vie, il verra la résurrection, ce qui est une vie physique, une vie mentale, etc. Mais il ne verra pas la vie, c'est-à-dire il ne verra pas cette vie avec Dieu, il ne verra pas cette vie de gloire, de bonheur, de paix avec Dieu, de réconciliation avec Dieu. Et il restera dans le conflit avec Dieu. Donc, c'est extrêmement important. La foi en Jésus résout le conflit que l'homme a avec Dieu et donne la paix. Et la foi que l'on donne à Jésus permet de recevoir une relation éternelle, bénéfique, avantageuse, pleine de gloire, pleine de lumière. Au chapitre 3, verset 21, « Celui qui agit selon la vérité, donc selon ce que Jésus enseigne, vient à la lumière, donc il vient à Dieu, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Donc, Jésus offre un chemin où l'aboutissement est la totale lumière, la pleine vie en Dieu. Regardons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Pourquoi personne n'a jamais vu Dieu? Parce que dans Ésaïe 59, verset 1 à 3, Dieu dit que c'est à cause du péché, à cause des crimes que l'homme pratique, qu'il ne voit pas la face de Dieu. Ce contact lui est retiré. Mais il peut avoir de nouveau un contact avec Dieu grâce à la médiation du Christ. Ce Fils nous fait connaître le Père. Et les apôtres, y compris Jean, bien sûr, disent ceci, au verset 14, et au verset, surtout au verset 14, « Sa parole a été faite chair, donc la parole de Dieu, l'expression même de Dieu, hein, qui est sa parole, habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Donc, dans la vie avec Jésus, les apôtres disent qu'ils ont expérimenté la personne de Dieu, expérimenté la connaissance de Dieu, expérimenté le contact avec Dieu. Ce n'est donc plus seulement un langage, c'est une expérience. Et c'est le don d'une expérience, le don d'une relation. Donc l'homme est introduit dans la relation avec Dieu, dans cette relation qu'il avait perdue. Ça, c'est réellement le cadeau suprême de Jésus. Dans Jean chapitre 5, verset 24 à 26, Jésus dit ceci, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc à Dieu le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Donc, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à Dieu le Père, est dans l'expérience de la vie avec Dieu. Il est rétabli dans la relation perdue depuis Adam et Ève avec Dieu. Jean chapitre 5, verset 24. Il a la vie éternelle. Et donc, il ne vient point en jugement, c'est-à-dire le problème de la condamnation est résolu, il n'y en a plus. Il est passé de la mort à la vie. Donc il est passé d'une séparation relationnelle, d'une rupture avec Dieu, à une vie de relation avec Dieu, une vie où la présence de Dieu, le contact avec Dieu, permet d'être éternellement en Dieu. Il est passé de la mort à la vie. En vérité, comment ?
Comme notre Père sur la terre et au ciel.
Oui, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, les morts, c'est-à-dire les hommes et les femmes séparés de Dieu, s'ils entendent la voix de Jésus et qu'ils l'acceptent, ceux-là vivent. Voilà. Verset 26, « Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Bon, tout ça c'est la base de la grâce. J'explique rapidement ce qu'est la grâce, voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais il a fallu pour cela, tout de même, que l'offense faite à Dieu par Adam et Ève et par tous ceux qui les suivent, donc nous, cette offense soit réparée, soit payée. Et donc, Jésus n'est pas seulement celui qui est le médiateur, qui rétablit la relation, qui est l'ambassadeur, le canal de la grâce, il est aussi celui qui a payé. Il expie. Et donc, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc Jésus, Dieu a donné son Fils unique sur la croix pour nous sauver. Il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions pas. C'est le rachat total de la faute que l'homme a commise et qu'il commet encore. Donc, c'est l'instrument de la rédemption, Jésus. Si c'est en même temps le médiateur, c'est aussi l'instrument de la rédemption. Bon, maintenant, quand Jésus a offert ce salut, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va se comporter ? Eh bien, Jésus dit que après sa mort, dans Matthieu 28, 18 à 20, comment on se comporte ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour Jésus ? Eh bien, dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, un pouvoir énorme. Jésus était omnipotent. Jésus est Dieu. Il a un pouvoir sans fin sur terre et au ciel. Allez, et il parle, il donne un ordre divin. Allez, faites de toutes les nations des disciples, donc des enseignés, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus assure sa présence, affirme sa présence et sa prestation, c'est-à-dire son action, son intervention. À nous de le faire connaître aux autres, puisqu'il est là et qu'il agit. Euh, Alors, ceux qui ont cette foi et qui vont annoncer ont évidemment tout intérêt à se réunir autour de Jésus et à ne pas agir individuellement. D'où l'idée de l'Église, même si le mot n'est pas encore donné. Dans Matthieu, au chapitre 18, verset 20, « Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, ce rassemblement, évidemment, n'est pas un rassemblement triomphaliste. Si nous prenons Luc, nous allons voir que ça n'a rien de triomphaliste. Parce que souvent, on fait la critique à propos de l'Église qu'elle l'a abusé, elle a voulu régner, etc. Mais la véritable Église de Jésus-Christ ne vient pas pour s'affirmer comme une banque ou une armée ou une institution humaine. Donc dans Luc chapitre 17, versets 20 à 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Donc ça, c'est l'attente d'une puissance, évidemment, d'un pouvoir. Et Jésus répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc frapper les regards, c'est ce qu'on appelle la visibilité en termes modernes. Tout homme politique a intérêt à ce qu'on parle tout le temps de lui à la télévision, à la radio, sur Internet. C'est comme ça, ça s'appelle la visibilité. Un produit commercial, c'est la même chose. Mais pas du tout pour Dieu. On ne dira point « il est ici ou il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, le royaume de Dieu est au milieu...
C'est intérieur, quoi.
Des cœurs, oui. Il est spirituel. Et il ne prend pas les moyens du monde pour se faire voir. Juste après, on a dans le même chapitre de Luc, au chapitre 17, ben, là, un texte où Jésus dénonce le monde, qui parle aussi de visibilité. Donc quand le Fils de l'homme reviendra, regardons, chapitre 17, verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, les vit tous périr. » Donc il y a... On manifeste de manière très extérieure la gloire des familles lors des mariages, lors des enterrements, lors des guindailles, des sorties... des repas. C'est comme ça qu'on manifeste l'existence d'une famille ou d'un groupe politique ou d'une région, d'une association. Regardons un peu plus loin, verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Donc, on voit que, en plus des manifestations comme la mangeaille, la boisson, je dirais tout ce qui est visibilité, qui tend à réunir les gens sur les plaisirs du monde, il y a aussi le matérialisme. Ils vendaient, ils achetaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Le matérialisme. Donc le capitalisme est au cœur de l'homme. Et regardons le chapitre 18, verset 22, Jésus dit ceci, « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. » Donc on voit que le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, n'est pas du tout l'amour de l'argent et des biens. Il est le partage des biens, il est le dépouillement des biens. C'est donc un message en rupture. C'est donc une association, une réunion de croyants en rupture avec les mœurs du monde et les valeurs du monde. Et au... Verset 23-24, lorsqu'il entendit ces paroles, donc le jeune homme riche, devint tout triste, car il était très riche. Donc on voit le conflit intérieur, moral, éthique, que provoque Jésus envers l'homme, qui est épris d'argent, épris de biens. Donc c'est clair, le message de Jésus n'est pas dans la continuité des valeurs terrestres classiques. Verset 24, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Donc, qui peut être en réconcilié avec Dieu? Qui peut vivre comme toi, Jésus? Qui peut être dans la volonté de Dieu? C'est impossible, apparemment. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, on voit que Dieu a un pouvoir, il rend possible quelque chose qui est impossible à l'homme. Donc Dieu peut donner une grâce transformante, une grâce sanctifiante à l'homme, et il veut la donner. Mais il faut quitter les valeurs du monde, il faut quitter les principes même du monde, qui sont des principes trompeurs.
Pour l'Europe, c'est dur.
S'il vous plaît.
Pour l'Europe, ça sera dur.
Ben pour tout homme, hein, j'ai vu en Afrique aussi des gens riches, hein, on a vite fait de mépriser les autres. Hein. Donc, bien sûr, dans Luc 17, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, hein, c'est 17-20, c'est-à-dire la sensibilité classique, la façon d'épater les autres, de s'imposer, de se faire reconnaître. Et on ne dirait pas il est ici ou il est là, c'est-à-dire on n'en fera pas la réclame, parce que ça ne sera pas apprécié de tout le monde. On n'aura pas envie d'en parler, parce que ça n'intéresse pas la majorité. Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, donc il est intérieur et il est vécu de manière intérieure par des humains qui aiment Jésus et qui aiment Dieu. Dans Luc 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors, bon, il y a des gens, bien sûr, qui ont profité de ça pour dire, vous voyez, c'est une secte, c'est un fanatique, il ne respecte pas la famille, il ne respecte pas l'amour humain. C'est complètement faux, parce que Jésus a vécu 30 ans avec sa famille, il a travaillé de sa main, il a aidé sa famille, hein, ses frères et sœurs, il les a toujours accueillis, hein. Mais ce cas, il ne s'est pas soumis aux valeurs que la famille voulait imposer. Quand Jésus a parlé du Père, et a parlé de l'amour du Père et du péché, la famille l'a pris pour un fou et voulait le faire rentrer à la maison. Là, en cela, il était en rupture avec son père, sa mère, etc., tout le monde. Donc, même si Jésus a de l'amour pour sa famille, il est en rupture avec la manière traditionnelle de vivre. Et il n'accepte pas que la famille impose son point de vue sur le point de vue de Dieu. Le point de vue de Dieu passe avant le point de vue. Le point de vue de Dieu, c'est tout de même la sainteté. Avant tout, c'est la sainteté. Alors, il y a quand même un appel considérable à une transformation de l'individu, qui est presque insoutenable pour un être humain. Chapitre 13, verset 24, toujours dans Luc. Chapitre 13, verset 24, il leur répondit, donc Jésus dit, bon, je vais prendre un peu avant, verset 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors, vous voyez que ceux qui entouraient Jésus comprenaient très bien, c'est comme aujourd'hui, on comprend très bien que c'est le message de Jésus est radical et pour beaucoup est insupportable. Verset 24, il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, ne le pourront pas. Oui, on veut rentrer auprès de Dieu, mais sans rien changer. Toujours en aimant l'argent, en aimant le pouvoir, en aimant la visibilité, la gloire, l'honneur, etc. Mais pour Jésus, c'est pas possible. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Donc, il y a une incompatibilité entre Dieu et ceux du dehors. Vous voyez le mot « dehors », hein ? Ceux qui veulent rester dans les pensées du monde.
Ils ne renoncent pas.
Oui. Donc, le mot « dehors », je profite de ce mot « dehors », hein. Vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Donc, vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Dehors, dedans. D'où le mot « kaleo ». « Kaleo » veut dire « appeler » en grec. Et « ekkaleo », appelé à sortir d'eux. Donc, les chrétiens, les personnes qui appartiennent à Jésus et qui veulent retourner vers Dieu, par Jésus, sont appelés à sortir de quoi ? Des fausses valeurs qui pourrissent ce monde, qui pourrissent les relations, et qui séparent de Dieu, et qui séparent les hommes les uns des autres, les nations, qui séparent même les religions. C'est ekkaleo. Jésus appelle à sortir de tout cela. Le mot ekkaleo, c'est donc un appel à une rupture, à un changement, à une conversion.
Il dit à Pilate.
Oui, c'est ça, je ne suis pas de ce monde, hein, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand il dit ça à Pilate, oui. Et donc, le mot ekkaleo a donné ecclesia. Donc des personnes rassemblées à deux ou trois au nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux, mais c'est une ecclesia, c'est une réunion où Jésus est là. Une église en français. Ecclesia, c'est traduit en français par c'est église. Le mot église, c'est donc un rassemblement ecclésiastique, c'est tout à fait autre chose. Hein. Je ne veux plus rien dire avec le mot ecclesia. Le mot église, ce sont des personnes qui ont accepté d'être en rupture, qui sont sorties des valeurs du monde et qui aiment la parole de Jésus, son enseignement, et qui adhèrent à un dépouillement des œuvres ténébreuses de cette vie, des œuvres d'argent, des œuvres de souillure, des œuvres de pouvoir, etc., de convoitise. Donc, l'Église a une nature différente de celle du monde. L'Église n'a pas du tout une ressemblance avec les valeurs du monde. C'est la vocation d'être différente. Alors, dans cette église, regardons Matthieu chapitre 23, Jésus nous a mis en ordre, nous a prévenus en garde, il nous a mis en garde, que pour le futur, et bien sûr ça correspond tout à fait à ce qui s'est passé, dans Matthieu chapitre 23, c'est d'abord de ne pas pratiquer comme les pharisiens et les scribes au début du chapitre 23. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, donc ils ont la Bible. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ils ne font pas. Donc, première chose, ne pas utiliser les enseignements prophétiques et de Jésus pour mentir. Pour dire et ne pas faire. Ça, c'est une chose. C'est une mise en garde formidable. C'est-à-dire, c'est éviter la duplicité. Double face, l'hypocrisie. Donc, une caractéristique normalement de l'Église, c'est éviter la duplicité. Et ne pas faire du religieux. C'est aimer la vérité. C'est être affranchi de la façade religieuse. C'est être affranchi du mensonge. Et ne pas vouloir paraître ce qu'on n'est pas. Donc, il y a une attitude de vérité et d'humilité. Ensuite, au verset 4, donc Matthieu 23, verset 4, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc, Deuxième caractéristique de cette communauté, elle n'écrase pas les gens avec un légalisme culpabilisant. Et elle ne crée pas une classe de dominants, des idéologues, des moralistes, des gens qui disent « il faut faire ci, faire ça », et puis les autres qui sont écrabouillés et qui se culpabilisent et qui ne savent pas le faire. Verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, etc. Ils portent de larges phylactères, donc des vêtements avec des petits lacets, des franges, hein, des boules au bout. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi, maître, maître. Donc, voilà comment ça se passe dans le monde, dans les religions. Et voilà comment moi je ne veux pas que ça se passe parmi mes disciples. C'est ça que ça veut dire. Verset 8, vous ne vous faites pas appeler maître, rabbi. Donc, dans la franc-maçonnerie par exemple, il y a des maîtres, il y a des vénérables, des grands vénérables, mais il y a aussi dans les grandes églises, regardez, ne vous appelez pas, n'appelez personne sur la terre votre père. Pourtant il y a le Saint-Père, il y a le Père supérieur, la Mère supérieure. Un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Faites pas appeler directeur, directeur de conscience. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera baissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Donc radicalement, adieu pour l'orgueil, adieu pour le système hiérarchique de domination au nom de Dieu. La domination au nom de Dieu n'est pas accepté par Jésus.
C'est pas comme les politiques.
Voilà. Mais la religion, on l'accepte, ça, la domination au nom de Dieu. Il y a une politique dans la religion. Donc, ça, c'est extrêmement important. Appartenir à Christ, c'est avoir radicalement rejeté cet esprit et ses attitudes. Donc, Jean 8, 47. Prenons Jean 8, 47. Oui, il vaut mieux mettre du chauffage, il ne fait pas chaud. Hein. Jean 8, 31 d'abord, il dit aux juifs, aux responsables juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc il faut rester dans cet enseignement. Demeurer, c'est camper, c'est vivre avec, c'est rester avec. Meneo, c'est vraiment pérégriner, faire la marche avec. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le projet de Jésus, c'est une liberté par rapport aux fausses valeurs, par rapport aux tendances dominatrices, aux tendances mensongères, aux tendances de souillure, aux tendances de tromperie, aux tendances aux inégalités, aux tendances religieuses. C'est une libération. La vérité vous affranchira. Et regardez bien. Verset 34, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, radicalement, les disciples de Jésus ont un ennemi, c'est le péché, et rien d'autre. Personne n'est l'ennemi d'un chrétien, sauf le péché. Comme pour Jésus, personne n'est l'objet de la haine de Jésus. Jésus aime tous les hommes, mais n'aime pas le péché. Jésus aime tous les pécheurs, mais n'aime pas le péché. Donc, de la même façon pour un chrétien. C'est pour ça qu'on ne peut pas maudire quelqu'un, dire du mal de quelqu'un, calomnier quelqu'un. On doit prier pour tous, pour l'ennemi et pour l'ennemi. On doit bénir, et puis on ne doit pas seulement accueillir à sa maison ceux qui vont nous rendre l'appareil, on ne doit pas seulement aimer ceux qui nous ressemblent, mais aimer ceux qui ne ressemblent pas. Alors, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans la dynamique de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, il y a toujours un affranchissement continuel de Jésus par rapport aux tendances humaines pécheresses, aux formes du péché aux expressions du péché, convoitise, désir de pouvoir, désir de se comparer, désir de médire, désir de juger, désir de se faire valoir, etc. Le Fils nous a franchis et il nous promet une liberté. Liberté vis-à-vis de cette puissance destructrice qu'on appelle le péché. Oui. Donc, c'est véritablement une liberté éthique, intérieure, radicale. Et quand Jésus parle comme ça, il dit qu'il nous a franchis. Il a un pouvoir. Il exerce un pouvoir en nous pour nous affranchir. C'est pas simplement, il nous parle et puis il débrouille-toi, mais en neuf. Donc, Jésus a un pouvoir. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, il est agissant, il est puissant. Donc, on peut se confier dans sa force, dans son pouvoir. Donc, le chrétien n'est pas tout seul. Le chrétien n'est jamais tout seul dans ce combat pour la liberté, pour l'affranchissement de son péché, pour le combat contre le péché. Dieu n'est pas lâche. Jésus n'est pas lâche. Il sait très bien que l'homme est pécheur, il est faible. Et Dieu n'est pas ignorant de notre faiblesse, il vient en aide à notre faiblesse. Voilà. Et dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, donc Pâques, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc soif de quoi? De liberté par rapport à la puissance du péché. Soif de vérité, soif de d'échapper à ces tendances destructrices. Celui qui croit en moi, donc qui adhère à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc la comparaison d'un torrent, d'un fleuve qui coule. Et avant, bien sûr, c'était la sécheresse. C'était l'aridité, c'était le désert, la mort. Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit Saint n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire mort à la croix, ressuscité, glorifié. Donc, l'Esprit Saint c'est Dieu. Donc, Dieu vient faire son habitat dans l'homme qui croit en Jésus. Et c'est Dieu. Agit comme un fleuve puissant. Comme un fleuve puissant. Quand on voit un fleuve, aussi bien, il débite 3000 mètres cubes d'eau à la seconde, ou 500 mètres cubes d'eau à la seconde. Ce n'est pas une petite gouttière de la toiture qui fait tomber de la pluie, tic, tic, tic. Non, c'est une puissance. C'est l'image d'une puissance totale. Et regardons dans Jean chapitre 8, je suis la lumière du monde, cette puissance est une puissance éclairante, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc c'est une puissance éclairante, donc la conscience est transformée, la conscience est tout à fait, perçoit l'enjeu et elle a... Elle aura la lumière de la vie, elle sait très bien ce qui est précieux, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et elle ne peut pas quand même aimer ce qui l'obscurcit, qui lui fait perdre son chemin. Donc on voit vraiment que la vie chrétienne se partage à quelques-uns au nom de Jésus, mais toujours est mobilisée par la puissance même de Dieu, de Christ, du Saint-Esprit. Bon, c'est sous le canal de la grâce que se fait, que se vit la foi chrétienne. Et la vie chrétienne est la foi chrétienne. Et elle est offerte. Elle est offerte. C'est comme un fleuve qui nous est donné en nous. Un fleuve puissant. Donc, la foi, c'est pas seulement une adhésion à un message, c'est pas seulement une adhésion à une personne, Jésus, qu'on ne voit pas, c'est aussi une expérience de Jésus. Dans Jean chapitre 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour.
Jean
chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Bon, je suis né en 1948, je vis toujours pour le moment, et ici la parole de Dieu me dit que si je crois en lui, j'ai la vie éternelle, mais c'est aussi si je vois le Fils. Parce que je vois le Fils aujourd'hui, moi. Et chaque fois que j'adhère à la vérité, je me laisse faire par la vérité, je vois réellement qu'il est la vérité. Je vois véritablement qu'il est l'envoyé de Dieu. Et si j'écoute mon péché, j'écoute les folies du monde, il n'y a plus que ténèbres. Je vois bien, je fais l'expérience par mon intelligence, par ma conscience, assistée du Saint-Esprit, je fais l'expérience que Jésus est la vie et il est la lumière du monde. Donc, c'est une vision du cœur, c'est une vision de l'âme.
C'est-à-dire un autre regard.
C'est un autre regard. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, Éphésiens au chapitre 1, c'est fort important de comprendre que la vie n'est pas simplement basée sur les cinq sens, mais il y a l'âme, et l'âme qui est nourrie de Christ n'est plus égarée, n'est plus obscurcie, il n'y a plus un voile qui est séparé de Dieu. Et donc, on peut voir que...
Éphésiens,
chapitre 1, voilà ce que Paul dit, au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce, Éphésiens 1, 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Le mot espérance, c'est certitude, parisie. C'est une forme intérieure, une force, une conviction de que j'ai trouvé la vérité, vive de cette manière-là, comme Jésus, c'est la vérité, c'est la lumière, c'est la vraie vie. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage ? Donc, quelle est la richesse de la gloire de tout ce que Jésus m'apporte aujourd'hui. Donc le mot dans Jean, la volonté de mon Père, c'est que je vois le Fils et que je crois en lui. Je peux aujourd'hui voir avec les yeux de mon cœur, de mon âme, parce que mon cœur et mon âme sont illuminés par Dieu, je vois ce qui est vrai et ce qui est faux. Je vois ce qui est proche de Dieu, ce qui est en Dieu, ce qui est dans les ténèbres, qui est dans le péché. Voilà. C'est extrêmement important. Et tout ça fait dire à Paul, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un cadeau immérité. Par le moyen de la foi. Simplement, j'adhère, je laisse mon cœur se laisser modeler par Dieu pour être autrement. Oui, comme l'argile dans les mains du potier, pour être, de devenir un cœur d'enfant de Dieu, de disciple.
Récipient.
Ou comme un récipient qui prend le liquide, le bon vin. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Éphésiens 2, 8, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement un don de Dieu au point de départ de la foi. C'est tous les jours un don de Dieu.
Mais au départ, le Christ est venu sur la crèche, c'était aussi la mangeoire, c'était déjà un don.
Oui, ce n'est pas par les œuvres, donc ce n'est pas mes actions, mon vouloir, le mérite ou mon intelligence qui peuvent amener cette foi, cette grâce. Pourquoi ? Parce que pour que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus, Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc là, on voit qu'il y a une praxis. Il y a une pratique, il y a des comportements, il y a des choses que Dieu sait d'avance qu'on va faire quand on se laisse travailler par la personne de Christ, par le Saint-Esprit, Dieu a un programme pour le croyant. D'œuvres saintes, d'œuvres bonnes. Bonne pour lui, bonne pour Dieu, agréable à Dieu, bonne pour les autres. Dieu n'a jamais un programme d'œuvres mauvaises à l'égard des autres. Donc il n'y a pas de guerre sainte. Il n'y a pas de guerre sainte. Il n'y a pas d'attitude de méchanceté ou de parole mauvaise qui puisse être engendrée par Dieu dans le cœur d'un vrai chrétien. Un vrai croyant en Jésus.
Ça s'est vu, hein, dans l'histoire.
Oui, mais le vrai croyant, c'est toujours le vrai croyant. Il ne peut pas être faux et vrai en même temps. Donc, quand je disais tout à l'heure, Jean, chapitre 6, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Voir le Fils, c'est une expérience fondamentale de la parole de Dieu, de Jésus, d'une vie nouvelle. C'est ça que ça veut dire. L'expérience humaine ne donne pas la foi. L'expérience humaine ne donne pas la foi. Dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la chair ne sert de rien, Sarx, l'humain ne sert de rien. Pourquoi ? Parce qu'il est entaché du péché, il a été séparé de Dieu. Donc, il faut un don de Dieu. Et le premier don que Dieu fait à l'homme aujourd'hui, c'est les paroles de Jésus, qui sont les paroles de Dieu, bien sûr. Dans Jean chapitre 6, verset 65, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, il y a un plan de Dieu sur l'homme pour son retour vers Dieu. Pour son retour. Je pense que pour chaque homme, il y a un rendez-vous. Je vais chez l'ophtalmologue, chez le cardiologue, je prends un rendez-vous. Eh bien, Jésus vient me donner mon jour de rendez-vous avec Dieu. Et chacun de nous sur la terre. C'est un petit peu comme dans un bureau médical ou à l'hôpital, à l'entrée, c'est la personne qui dispatche les rendez-vous, et ça c'est Jésus. Pour le ciel, entre le ciel et les hommes, cette personne-là, elle dispatche les rendez-vous avec Dieu. Alors, le salut est l'œuvre de Dieu. C'est important de dire ça, ce n'est pas l'œuvre de l'Église. Donc, il faut bien se dire ceci, qu'il y a une grave erreur qui a été instaurée après quelques siècles. L'Église donne le salut, en baptisant, par exemple. L'Église donne le salut. Ah, j'obéis au supérieur de l'Église, donc je suis sauvé. C'est Dieu toujours qui donne le salut. Et Jésus, à la croix, est mort pour mes péchés, c'est lui qui donne le salut, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Donc, il faut savoir qu'un grave égarement qui est venu à propos de la conception de l'Église, c'est de dire que l'Église donne le salut. C'est le Christ, c'est Dieu qui donne le salut. C'est l'ouvrage de Dieu, le salut. L'Église n'est que la servante du salut. Donc l'Église, c'est le réceptacle. Et ce n'est pas elle qui a fabriqué le contenu qu'on met dans le réceptacle. Le vin nouveau. C'est fort important de savoir ça, parce que un des plus grands égarements, c'est que les églises, après quelques siècles, se sont mises sur le plan de la religion. La religion me donne le salut. Et l'Église me donne le salut. D'où l'expression qui vient du Concile de Trente, qui vient même du Moyen-Âge, de d'autres conciles, hors de l'Église, point de salut. C'est épouvantable. Donc, d'où l'idée, il faut absolument baptiser tout petit, tout petit, tout de suite, parce qu'autrement, il va en enfer. Alors que c'est Dieu seul qui sauve. Donc, la parole de Dieu, quelque part, nous met en rupture avec les traditions ecclésiastiques. Les traditions qui sont nées durant les siècles. La parole de Dieu est beaucoup plus simple. Alors, nous allons prendre, évidemment, comment Pierre parle dans son épître. Pierre, qui est revendiqué comme étant le fondateur de l'Église, etc. Mais non, c'est le Christ qui est fondateur de l'Église. Comment Pierre a parlé? Premier épître de Pierre, chapitre 1. Verset 15. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, c'est bien sûr dans le Lévitique. Hein. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, donc la vie sur terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc, ici, Pierre, est en train de mettre à plat la religion. Elle ne sert à rien. La religion, héritée des parents, ne sert à rien. Et il ne faut surtout pas croire que c'est en donnant dans le trésor du temple, en donnant de l'or ou de l'argent, qu'on va être sauvé. D'ailleurs, la preuve dans les actes des apôtres, quand ils rencontrent un paralytique, le paralytique tend la main pour recevoir quelque chose, ils disent « nous n'avons rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Pourquoi ? Ils ne rentraient pas dans le temple avec de l'or et de l'argent. Alors qu'avant, ils rentraient avec quelque chose pour mettre dans le tronc, pour offrir aux prêtres, etc. Ils sont en rupture. Donc, on ne donne pas d'argent, je m'excuse de le dire, pour une messe d'un mort ou d'un mariage. On ne doit pas donner d'argent. C'est quelque chose que Pierre, même lui-même, dénonce. On ne donne pas d'argent pour quelque chose qui est chrétien. Je dirais à la limite, si on donne une Bible à quelqu'un, on ne lui demande pas d'argent. On doit faire comprendre que la relation est gratuite avec Dieu. Il n'y a rien à acheter chez Dieu par de l'argent, ni par des traditions. Alors, mais comment peut-on donc être sauvé si on ne peut rien donner à Dieu pour être sauvé? Si on ne peut rien accepter qui vient de nos parents pour être sauvé? Ben regardons ce que Pierre dit, chapitre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, eschaton, donc c'est la période où Jésus est crucifié et ressuscité, c'est ça l'eschaton, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné à la fondation du monde, et la source du salut. Donc, ça c'est l'agneau, la peau qui est mise sur Adam et Ève, qui représente Christ, l'agneau d'Abel, l'agneau d'Abraham, sacrifié par Isaac et Abraham sur le mont Morija, donc l'endroit central de Jérusalem, le serviteur souffrant, l'agneau de Dieu dans Ésaïe 53, l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste désigne en voyant arriver Jésus, voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde, c'était prévu par Dieu. Et c'est ce que Jésus dit dire lui-même. Il est l'agneau qui sauve l'homme par son sang. Donc, Pierre a bien compris le message de Jésus. Alors qu'à un autre moment, dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus dit « Je vais mourir, je vais t'arrêter, à Dieu ne plaise, on s'en fiche de ce que Dieu a prévu, tu ne mourras pas, on ne veut pas. » Donc, Pierre se posait.
Mais c'est parce qu'il aimait Jésus. Quand un ami te dit qu'il va mourir, qui plus est, c'était Jésus. Alors il lui dit, mais enfin, ça se peut pas.
Il a sorti l'épée et coupé l'oreille de l'autre.
Oui, mais il était persuadé.
Il était sanguin.
Il était persuadé, oui, il était humain. Mais ici, il est comment ? Il est spirituel. Il sait que c'est Jésus qui donne le salut.
Ça a changé. Hein.
Ni la religion juive, ni une autre religion qui serait créée après, un système religieux qu'on appelle le christianisme, ne peuvent sauver. Seulement le sang de l'agneau. Donc, le salut de Jésus-Christ sur la croix est central. Donc, l'Église, elle est quoi ? Toujours reconnaissante envers Dieu du sacrifice de la croix. La première action de grâce de l'Église, c'est cela. Et c'est Dieu qui sauve par l'agneau sacrifié. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, lorsqu'il nous dit, il nous montre ce qui se passe au ciel, parce qu'il l'a vu, qu'est-ce qu'il va dire ? Au chapitre 5, chapitre 5, verset 9, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Donc les prophètes de l'Ancien et Nouveau Testament, les saints, etc., les archanges qui disent ça à Jésus, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, donc ils sont libérés du péché, ils font partie du royaume de Dieu, hein, et des sacrificateurs, donc des personnes qui peuvent prier, s'adresser directement à Dieu, pour eux-mêmes et pour les autres, des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. La promesse d'un royaume. Au verset 12, là il y a des myriades, des milliards de personnes sauvées, en plus que les anges, etc., il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc on voit vraiment que tout le ciel est mobilisé sur une action de grâce, du sacrifice de la croix, de la rédemption du monde. Donc l'Église doit être mobilisée de la même manière, sur focalisée là-dessus, et rien d'autre. Quand on voit que Jésus a dit il n'y a qu'un directeur, qu'il n'y a qu'un maître dans l'Église, et qu'aujourd'hui il y a combien de maîtres, et combien d'institutions, il y a combien d'organisations et de gens qui prennent la place la plus importante, qui est celle de Jésus. Donc, Jésus nous a bien averti que l'Église n'appartient pas à l'homme. Elle appartient à Christ. L'Église appartient à Christ. Donc, quand je disais dans le programme des conférences quel est le projet de Jésus pour son Église, son projet initial, c'est, je viens de l'expliquer, c'est le rassemblement de ceux qui sont sortis des fausses valeurs du monde, qui ont renoncé au péché, qui se sont repentis, qui ont accepté l'appel de Dieu à vivre dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Christ, pour être conduits dans la sainteté, comme Dieu le veut, pour faire les œuvres préparées d'avance par Dieu, et qui ont accepté que la rédemption offerte par Jésus à la croix. Et offerte par le Père en Jésus, à la croix. Alors que Jésus pense-t-il actuellement ? Je viens de vous le dire, Jésus pense actuellement que tous ceux qui font la volonté du Père sont ses disciples, que tous ceux qui acceptent son sacrifice et qui l'en remercient, qui sont dans l'action de grâce, sont vraiment ses disciples. Que tous ceux qui renoncent au péché et aiment la vérité de sa parole sont ses disciples. Voilà ce que pense Jésus aujourd'hui. Qui est mon frère, ma soeur, ma mère, etc. Ceux qui font avancer de mon Père. Et quand Jésus dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui m'a dit Seigneur, Seigneur, qui sera sauvé, c'est celui qui a fait avancer de mon Père. Et ceux qui m'ont dit Seigneur, Seigneur, et qui t'ont fait avancer de mon Père, je leur dirai, arrière de moi, vous qui avez commis une iniquité, je ne vous ai point connu. Donc on voit clairement que Jésus a enseigné que notre vie doit être conforme à notre parole, sans équivoque. À notre parole, notre adhésion à Jésus-Christ, en parole et en acte, voilà ce qui plaît à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que les mises en garde que Jésus a faites n'ont pas été écoutées? Pourquoi la plupart les ignorent?
C'était. Il n'y a pas de péché et on baptise et tout.
Ben, c'est parce que tout simplement, historiquement, il est arrivé toute une série de choses regrettables. C'est qu'à partir du IIe siècle, beaucoup de gens ne se sont plus plongés dans les Saintes Écritures d'eux-mêmes. Ils ont laissé les anciens dans les églises, c'est-à-dire des hommes mariés, qui étaient responsables, leur dispenser la parole de Dieu, et ils se sont mis comme des oies qui ouvraient la bouche et qui attendaient qu'on les gavait. Et il y a eu une passivité, une forme de désintérêt pour la fréquentation de la parole de Dieu tous les jours, et une espèce de mise en place de spécialistes de la parole. Il en faut peut-être, mais ce qu'il y a, au dépend de leur démobilisation. Or, nous, on n'a pas le temps, on est accaparé par notre travail, par les soucis de la famille, puis on n'y comprend rien, etc. Lui, il parle bien, il n'a qu'à nous expliquer. Et bien, on va attendre le dimanche prochain qu'il nous explique. Et toi, pendant toute la semaine, je force un peu la chose, mais c'est venu un peu progressivement comme ça. D'où l'idée qu'il y a l'ancien qui s'appelait Presbyteros, qui est devenu quasiment un spécialiste, et puis les autres, laos, le peuple, le laïc. D'où l'idée, à la fin du IIe siècle, du laïc et du clergé. L'idée s'est faite d'abord concrètement. Donc on a fini par penser comment on vivait. On s'est laissé aller et on vivait. D'où l'idée, par exemple, Ignace d'Antioche qui dit, là où il n'y a pas l'évêque, il n'y a pas d'église. Ben oui, parce que si l'église laisse tout faire à l'évêque, c'est-à-dire le presbytéros, l'ancien dans l'église, et qu'il n'est plus là, ben, personne n'est branché sur Jésus. Peut-être que sur les faits, Ignace d'Antioche a voulu bien le faire en disant cela, mais ce qu'il y a dans les faits, cette parole a été reprise par la suite pour dire, eh bien, s'il n'y a pas le presbytéros, il n'y a pas l'ancien, il n'y a pas l'assemblée. Or, ça, on ne peut pas le dire, puisque Jésus a dit, là, deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, on a détourné le sens des paroles d'Ignace d'Antioche. Bon, maintenant, il y a effectivement d'autres dérapages. C'est que cette pratique dans les petites églises de la parole de Dieu était peut-être possible, mais dans les grandes églises, plus il y avait de monde, plus il fallait se focaliser sur quelqu'un. Et donc les leaders sont devenus importants. Donc, comme je vois ça en Afrique, une petite assemblée de 50 ou 100 personnes, ça va, mais quand il y en a 600, il y en a 2000, il y en a 5000, c'est évidemment, il y a quelqu'un qui apparaît toujours devant et les autres derrière. Et donc, la mise en valeur de la personne fait que tout d'un coup, eh bien, si elle n'est pas là, pourquoi on se réunit? Si elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Une dépendance envers l'homme, plus envers le Christ. Quand j'étais au Bénin, moi j'ai fort insisté pour qu'il y ait des études bibliques par groupe de 7 à 8 personnes dans les familles. Et que l'Église devait vivre avec ses cellules partout, et certaines personnes et c'est surtout des femmes qui m'ont dit oui, nous le faisons. Alors que d'autres, au Bénin, j'ai vu, avaient du plaisir à jouer au grand roi ou au pape dans leur église. Donc, ça plaît à l'homme d'être important. Et puis, il y a la collecte, il y a l'argent. Si on m'apporte de l'argent, moi, je vais pouvoir vivre mieux. Donc, le peuple de Dieu qui m'apporte de l'argent, quelque part, ça me fait plaisir à moi. Est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu ?
C'est comme en Amérique, les prédicateurs, tout ça, c'est plus...
Voilà. Donc, le leadership, et puis, tout d'un coup, la sacralisation du leadership. Si bien qu'en 365, à Carthage, hein, Cyprien de Carthage a créé le prêtre. C'est-à-dire le responsable d'église, presbytéros, qui était simplement un animateur, quelqu'un qui organisait la vie de l'église et qui distribuait la parole, tout d'un coup devient l'homme du sacré. Il devient un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et cet homme a des pouvoirs, il a un autre statut. Il a en lui quelque chose que les autres n'ont pas. Et pourtant Jésus l'a dit, que personne ne soit appelé maître, père, etc., car vous êtes tous frères. Eh bien non, on a dérogé. Et puis, avec l'Épître aux Hébreux, on voit que le sacerdoce de Christ est intransmissible. On voit clairement dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, que au chapitre 7, Jésus, à propos de Jésus, chapitre 7, verset 24, il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, Cyprien de Carthage, en remettant en vigueur le sacerdoce qui était dans le judaïsme et qui était disparu avec le temple, pourtant l'Épître aux Hébreux est tout dit que Jésus est le seul médiateur, le seul prêtre entre Dieu et l'homme, eh bien, tout d'un coup, voilà que Cyprien de Carthage, avec l'assentiment de beaucoup d'autres, dit « il y a des prêtres ». Il y a donc des médiateurs entre le peuple de Dieu et les hommes. Ce à donner, ceci, c'est que ça est resté. Ça est resté. Bon, ce qui est venu avec les églises évangéliques, c'est qu'on a refusé. L'apparition des églises évangéliques, au début du XVIIe siècle, c'est le retour à l'église primitive, l'église où on annonce la parole de Dieu. Il y a des responsables pour la gouvernance de l'église, pour la distribution des services dans l'église et de la parole de Dieu, mais il n'y a pas de pasteur qui soit prêtre. Il n'a pas un statut sacré, en tout cas plus sacré que les autres chrétiens, et plus important que les autres chrétiens, aux yeux de Dieu. Donc, la réalité du prêtre est venue avec Cyprien de Carthage et elle est progressivement, elle a été acceptée dans beaucoup de places, pas partout, évidemment, il y a eu des conflits et c'est surtout l'église de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, de Rome qui ont appuyé ça, qui ont donné un statut sacré à certaines personnes. Et puis un siècle plus tard, eh bien, ces personnes... donner par leurs mains le pardon, le sacrement du pardon. Et puis, quand ils mouraient, de l'extrême-onction. Alors que dans Jacques, au chapitre 6, simplement, c'est l'ancien, le responsable de la communauté, avec d'autres qui priaient pour les malades et faisaient l'onction d'huile. C'est devenu un sacrement, c'est-à-dire un moyen de salut. Et puis, le baptême est devenu un moyen de salut. Alors que c'est seulement la foi dans le sacrifice de Christ qui est le seul, qui donne le salut. Le geste donné, mettre de l'eau et de prononcer certaines paroles, donne le salut. Donc, d'où l'apparition de tous les sacrements tels qu'ils existent au IVe siècle. Et c'est surtout Augustin qui provient aussi de Tunisie, hein, comme Cyprien de Carthage, mais un siècle plus tard quasiment. C'est l'organisation de la vie de l'Église autour des sacrements, donc signe et moyen de salut, qui a permis le développement et faire apparaître ce qu'on appelle les grandes églises. Avant, chaque église avait son autonomie, avait ses responsables, les choisissait, et l'essentiel était la parole de Dieu, l'essentiel était le sacrifice de Christ, la foi, l'action de grâce, l'extension, la propagation de l'évangile, de la bonne nouvelle, la mort et la résurrection de Jésus pour les péchés. Après, ça a été l'annonce d'une église qui porte le salut par des sacrements et par des prêtres. C'est tout à fait autre chose, bien sûr, que le point de vue de Jésus, du point de vue du départ. Alors, ce qui se passe, c'est que, j'ai parlé dimanche passé dans la prédication, qu'il y a eu l'anthroposophie, hein, il y a eu Nietzsche, il y a eu Darwin, il y a eu l'existentialisme, et que maintenant, aujourd'hui, dans la civilisation moderne européenne, il n'y a plus de vérité absolue. Chacun a sa vérité. Une vérité absolue qui viendrait de Dieu n'existe pas. Chacun a sa vérité. Donc, aujourd'hui, de ce fait-là, la civilisation européenne remet en cause les papes, les conciles, mais aussi les églises évangéliques, qui s'attachent, les églises évangéliques s'attachent à la révélation, à l'autorité de la Bible. Que ce soit le monde évangélique qui est un retour au christianisme des deux, trois premiers siècles, ou que ce soit les églises sacramentaires et institutionnelles, avec les prêtres, etc., devant la philosophie moderne, il n'y a pas de place. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de révélation absolue, chacun fait l'expérience d'une vérité, et la richesse de l'homme, c'est de partager les vérités expérimentées. Et donc, Dieu est dans la nature, les puissances sont dans la nature, les énergies sont dans la nature, ces énergies de la nature, c'est Dieu. Dieu est dans la nature, Dieu est immanent, Dieu n'est pas extérieur à la nature, et Dieu n'est pas une personne, une entité qui se révèle et qui donne des messages par des prophètes ou par Jésus. Donc nous sommes carrément mis au panier, que nous soyons des églises traditionnelles, sacramentaires, ou des églises évangéliques, tout à fait, avec un retour vers les Écritures. Donc, il est clair que nous faisons partie d'un monde rejeté. Le monde chrétien, quel qu'il soit, fait partie d'un monde rejeté. Je considère maintenant qu'avec toute la philosophie qui s'est établie en Europe, nous faisons partie d'un monde rejeté.
Rejeté ou dérangeant ?
Non, non, c'est fini. Dérangeant, ça c'est rigolo. Non. Non.
Rejeté.
Rejeté, rejetable, c'est même plus la peine d'en parler, c'est fini. C'est de l'archéologie sociologique. Ça fait partie des dinosaures, je vais dire. Pour la plupart, c'est ça. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la seule chose qui peut toucher un être humain, c'est la qualité du comportement d'un chrétien. La qualité éthique, la qualité morale, de son amour, de son pardon, de son service des autres, qui invitera les hommes à se remettre en question, mais pas forcément qu'il les invitera à se tourner vers Dieu. Parce qu'il y aura encore un barrage. S'il y a une ouverture au comportement de chrétien, authentique, ce n'est pas forcément. Mais ce qu'on peut croire, et nous c'est ça que nous croyons, c'est que Dieu est à l'œuvre pour agir dans les cœurs, malgré cette attitude hostile à la foi. Dieu peut toucher les cœurs encore aujourd'hui, nous le croyons. Mais de quelle manière ? Eh bien, en Europe, un petit peu comme chez les Athéniens, quand Paul a prêché. Quelques-uns ont cru, et puis tous les autres ont rigolé. Ok ? C'est, bien sûr, dans d'autres régions, quand Paul prêchait, beaucoup de gens suivaient et ont accepté la foi chrétienne. Bien, on va en Afrique, on va à certaines régions d'Asie ou d'Amérique du Sud, on prêche et des centaines de personnes se convertissent, voire des milliers. Donc on est dans une situation où on pourrait dire l'Europe, c'est un peu comme les Athéniens sur la place centrale de la ville, quand Paul a prêché et qu'ils lui ont dit, nous t'entendrons une autre fois parler de ça. Tu reviendras une autre fois pour nous parler de ça. Ça veut dire, basta, on n'est pas motivé pour t'entendre, tu perds ton temps. Donc aujourd'hui, en Europe, nous avons ça, ça ne veut pas dire que le monde entier est dans cette attitude. Il faut savoir que tout de même, à Athènes, certains ont cru, Denis l'Aréopagite et d'autres, et des gens un peu de tous les milieux. Donc des exceptions peuvent être touchées. Alors, en quoi nous croyons aujourd'hui au niveau de l'Église ? Nous croyons à la puissance et à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu peut agir et veut agir partout, dans les bonnes et mauvaises circonstances. Donc, dans l'Apocalypse, je reprends ce texte qui est très important. Quand Jean voit l'agneau de Dieu, donc Apocalypse chapitre 5, verset 5, l'un des vieillards, donc des prophètes, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, rejetant de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux, donc c'est le Christ. Je vis au milieu du trône les quatre êtres vivants, les archanges, au milieu des vieillards, donc les prophètes, sont près de Dieu, un agneau qui était là comme immolé, donc Jésus, hein, avec les traces sur les mains et les pieds. Il avait sept cornes et sept yeux, donc il avait la puissance, sept cornes, la puissance totale divine, l'omnipotence, et sept yeux, l'omniscience divine, on peut allumer la lampe, qui sont les sept esprits envoyés par toute la terre. Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que Christ a l'omnipotence, il a l'omniscience, et il a les sept esprits de Dieu envoyés. C'est-à-dire, il possède en plénitude le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit envoyé par toute la terre. Donc, l'Esprit Saint de Christ agit sur la terre. Quand Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre », nous pouvons nous confier dans le Christ ressuscité aujourd'hui, même dans une société athée, pour qu'il touche des consciences, qu'il en appelle. Mais nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes dans une société divisive qui a fait le deuil de Dieu, ou le meurtre de Dieu, si on veut, quelque part, de l'idée de Dieu. Donc, nous serions peut-être dans la grande Babylone qui dit « Je suis veuf, mais je ne suis pas malheureuse ». Donc, il y a cette veuve qui vit bien, qui se passe de Dieu royalement dans l'Apocalypse, mais qui ne souffre pas de l'absence de Dieu. Apocalypse 18, verset 7, elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe autant. Donnez-lui de tourments et de deuils. Il y a énormément de tourments aujourd'hui. Les pharmacies tournent bien, il y a les psychiatres, les psychologues, etc. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Donc, que Dieu soit là ou pas, ça ne me change rien. C'est un peu comme une femme, hein. Le mari, je m'en passe bien, moi j'en ai plus besoin. Hein. J'ai été marié un certain temps, je m'en fiche maintenant, je fais ma vie sans ça. Le mariage n'a plus d'importance, bien, cette image est reprise pour Dieu, et je ne verrai point de deuil. Donc, je n'en souffrirai pas. Il ne me manque rien, même si je n'ai pas Dieu. À cause de cela, dans le même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Donc, il est clair qu'une société qui se passe de Dieu à ce point-là, qui l'offense à ce point-là, est sous son jugement. Mais même si on dit cela à des athées aujourd'hui, je ne crois pas que c'est cela qui les fait beaucoup bouger. Ils en rient. Donc ça rejoint ce qui est dans Luc au chapitre 17, du temps de Noé, du temps de Lot, etc., Sodome et Gomorre. Quand le Fils de l'homme reviendra, il sera de la même façon. Les gens vivront de la même façon. Nous nous heurtons à ce monde qui s'est endurci et qui culturellement ne voit pas l'intérêt de Dieu. Culturellement, le transmet à ses enfants, à ses adolescents. Ils ont le téléphone portable, ils ont la voiture, ils peuvent aller travailler bien, mon fils aura une bonne place à la banque, etc. Tu pourras te marier quelques fois dans ta vie, tu pourras faire des beaux voyages, tu jouiras de la vie. Et s'il y a quand même des bons médecins, des bonnes lois sociales pour se soigner, tu peux faire un peu ce que tu veux avec ton corps, avec ton âme. C'est cela. C'est cela que notre société est en train d'enseigner aux enfants. Donc aujourd'hui, un enfant qui cherche Dieu, qui a une âme sensible, qui cherche Dieu, va se trouver généralement dirigé vers l'athéisme, vers la moquerie de Dieu. On va le prendre pour un faible. On va lui dire d'abandonner ces drôles d'idées qui ne servent à rien. On va l'intéresser au sport, à l'art, à la musique, à toute la religion, à toutes les philosophies, et à l'occultisme, à la divination, au sexe. Et si nous comptons sur un véritable appel de Dieu sur cet enfant-là, sur cet adolescent, nous pouvons voir un jour chrétien. Si nous lui présentons l'Évangile, nous lui présentons un bon témoignage. Donc aujourd'hui, nous avons toujours une mission. Nous avons toujours une mission. Il ne faut pas être démissionnaire, parce que nous sommes dans la grande Babylone. Et donc, nous serions une petite église, c'est-à-dire une église sans puissance, même si nous sommes 200 dans une assemblée, ou 500, ou 15, nous sommes une église sans puissance face à ce monde qui a tous les moyens, l'enseignement, les ministères, les pensées idéologiques du pouvoir, pour dire que Dieu n'existe pas, on n'en a pas besoin. Donc, je compare un petit peu l'église de Jésus aujourd'hui, celle qui aime la parole de Dieu, à celle de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Donc si un enfant, si Dieu, Jésus, agit pour ouvrir son cœur, je ne pense pas qu'on puisse éteindre ça et le fermer. Si réellement cet enfant a reçu une grâce pour chercher Dieu, ça reviendra. Donc on doit être là. En tant qu'Église, en tant que chrétien, on doit être là pour l'enfant, même s'il s'écarte un certain temps. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Notre société ne peut pas fermer ce que Dieu a ouvert. Ne peut pas rendre captif quelqu'un où Dieu lui a ouvert le cœur et l'âme vers lui. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, nous pouvons offrir une porte ouverte à des personnes en recherche. Nous pouvons offrir un Jésus de Nazareth vrai, avec sa parole, avec son sacrifice à la croix. Nous pouvons témoigner d'une véritable adoration, d'une véritable foi. Et nous restons là, le symbole de la porte ouverte pour ceux que Dieu appelle. Et même, ça va plus loin, on peut être le symbole d'une porte ouverte vers Dieu, pour un judaïsme fermé à Dieu. Synagogue de Satan, verset 9, « Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui sont des juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. » On a énormément d'artistes, de philosophes qui sont juifs, qui ont été des champions contre Dieu depuis le 18e, 19e, 20e siècle. Ce n'est pas pour ça que ça a empêché des chrétiens de présenter le salut de la croix, l'évangile à des juifs, et qu'il y a 2,5 millions de juifs messianiques aujourd'hui. Donc c'est véritablement une œuvre de témoignage, de persévérance. Alors verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc il y a une bénédiction sur ce type de croyant qui est toujours au service de la parole, au service de Dieu, c'est d'être gardé dans la grande épreuve qui culmine à un moment donné dans l'histoire humaine. Sans doute la grande épreuve de l'Antichrist, hein, de celui qui se fait passer pour le messager de la paix et qui va déchirer le monde. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, donc l'amour de Jésus, l'amour de Christ, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, la vraie gloire auprès de Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, n'en sortira plus. Voilà. Donc, je pense que nous avons une œuvre aujourd'hui, garder la parole de la persévérance en Jésus. Et nous avons de grandes bénédictions. Nous pouvons encore amener des personnes à la foi. Nous pouvons amener aussi des gens du peuple juif. Et vous savez, quand le peuple juif dit à Jésus, béni celui qui vient au nom de l'Adonai, au nom de Dieu, eh bien, c'est le retour de Christ, c'est la venue du royaume. Donc, en œuvrant de cette manière-là, en nous confrontant de cette manière-là, nous hâtons le jour de la venue de Jésus. Donc, nous avons toutes les raisons d'être heureux, d'être fidèles à Jésus-Christ. Alors, je prendrai pour finir Romains chapitre 10.
Nous avons toutes les raisons de, tu l'avais dit,
d'être heureux, d'être chrétien et de servir Jésus-Christ, de servir sa parole. Nous avons toutes les raisons d'être heureux. Il est évident que Paul est passé à Athènes et il n'a pas été reçu par tout le monde, mais après d'autres sont passés, etc. Dans Rome, c'était la même chose, et puis un jour, il y a eu d'énormes conversions. Donc, le salut est toujours l'œuvre de Dieu. Mm-hmm. Ce n'est pas une œuvre humaine. Et Dieu agit, il nous utilise. Dans Romains 10, verset 8, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, Jésus veut parler dans ce monde. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, Jésus, qui est la parole, s'il est dans mon cœur, il veut sortir de mon cœur, il veut sortir par ma bouche. C'est le vrai trésor de mon cœur. Et il devient la parole de la foi. Il parle de mon cœur, de mon âme qui a accepté Jésus. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Kerizo, ça veut dire que nous proclamons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, donc il y a une unité d'âme et de cœur et de comportement chez les chrétiens. Si tu confesses de ta bouche, Romains 10, verset 9, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire au pardon des péchés, au statut de pardonner, d'être innocenté, d'être sauvé, d'avoir le nom dans le livre de vie. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, un peu plus loin, il faut bien que j'aille un peu vite, mais au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça rejoint ce qu'on a vu dans l'Apocalypse avec la petite église de Philadelphie. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, c'est ça. La parole de la persévérance en moi, donc, et vous avez continué à porter cette parole vers les autres, la parole, et ça a amené la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Tout passera sauf la parole.
Et Paul, tous les apôtres ont eu des difficultés énormes à annoncer l'évangile et des persécutions, ils ont donné leur vie. Donc nous n'avons pas à avoir peur. la parole que nous pouvons apporter est donc une parole qui sauve, une parole efficace. Et c'est le grand sacrement de Dieu. Voilà. Seigneur notre Dieu, ainsi l'Église de Jésus-Christ, que tu as décidé, sur terre, c'est l'Église de la parole de Jésus, de la persévérance en Jésus, dans le sacrifice de Jésus pour nos péchés, la parole de la persévérance dans la foi en sa résurrection, pour le salut du monde. L'Église que tu as voulu, Seigneur, c'est la parole qui engendre la foi. C'est l'Église qui apporte la parole et qui engendre la foi. Et qui amène la réconciliation avec notre Père des cieux. L'Église est donc le peuple de Dieu en marche par la foi à la lumière de la parole de Dieu.
Ce qu'il voulait.
Et nous confessons, Seigneur, que c'est la seule Église que tu as voulu pour ta gloire et pour le salut du monde. Amen.
Amen.